On ne pourrait pas utiliser des termes...
Ah, citoyen, sans, c'est plus grossier.
Voilà. Non, des
grossier,
termes...
c'est même vulgaire.
Non, c'est pas ça. Des termes sanglants. Hein, parce que moi, je n'ai pas dit de l'égorger. J'ai dit simplement de lui mettre le couteau sous la gorge.
Ouais, bon, enfin bon, en général, c'est quand même une menace. Hein.
Bah oui.
Moi, c'est, dire que les gens sont cons, c'est pas une menace, c'est un fait. Un constat.
Excusez-nous, hein, auditrices, auditeurs de Radio Libertaire. Hein,
mais ils ne font pas partie des cons, eux.
ça, je sais pas.
Ils se rendent bien compte qu'autour d'eux, il y en a quand même. Sinon, ils n'écouteraient pas Radio Libertaire.
De toute façon, tu verras bien sur la liste ce qui sera dit après l'émission. De ouais, toute façon, je demanderai après au bureau qu'est-ce qui s'est passé. Il y aura censure.
Ouais. Ouais, mais, ouais, on va couper au montage.
Non, 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 mais on connaît trop bien la radio et puis je sais très bien.
Puis surtout en direct. Voilà.
Et puis, non, mais je veux dire, de toute façon, on en reparlera du moyen de transport dans sa généralité.
Ouais. Puisque, et puis, avec une prochaine émission avec une extension sur les réseaux européens, les problématiques sociales dans les transports.
Et surtout le fait qu'ils veulent changer un système qui a détruit une grande partie de la population, donc la voiture à essence et tout, et qu'ils veulent changer par l'électrique et qui reviendra au même. Parce que de toute façon, dernièrement, j'ai lu, il y a à peu près entre 1,2 milliard voitures sur la planète, approximativement. Entre 1,3 milliard, je crois.
Je peux ajouter quelque chose ?
Vas-y.
Pas dans le micro.
Pas oublier une innovation extraordinaire qui nous attend, qui va révolutionner la planète, les taxis volants.
Ah oui.
Eh oui, pour les Jeux Olympiques, déjà à Paris. Ouais. Il paraît qu'on va avoir des taxis volants, des espèces de gros drones.
T'as vu le cinquième élément, toi.
Hein, exactement, avec quatre hélices.
Enfin, nous arrivons à l'an 2000, rêvé dans les années 70. Voilà.
Oui, mais ça sera le même bordel là-haut, hein, de toute façon.
Est-ce que les conducteurs seront habillés aussi en papier de chocolat, là, en alu, là.
Il paraît qu'ils réfléchissent non seulement à faire des taxis volants, mais bien entendu, parce qu'on n'arrête pas le progrès, hein. Taxis volants sans pilote.
Parle dans le micro,
il
n'y
a jamais d'erreur dans les machines.
Là.
Hein. Les machines, elles se trompent.
Tu l'entends pas ou c'est toi qui n'as plus d'oreille?
Il y a le micro.
Eh oui, il le sait bien.
J'essaie de parler dans le micro, c'est sûr.
Mais c'est vrai, oui. Donc, comme on dit toujours, on arrête une technologie en disant on remet une autre qui serait soi-disant meilleure pour la société, ce qui n'est pas vrai. Au début, oui. Au début, elle va certainement être intéressante. Mais comme de toute façon, on revient toujours au même. Tant qu'on est sur ce système économique... Eh ben, la voiture essence, on va passer à la voiture électrique et ça sera autant. Si tu mets autant de voitures électriques qu'il y avait en essence, tu auras le même bordel.
Eh ben, ça nous donnera le sujet de l'émission, de la prochaine émission sur les transports.
Ben, je sais pas, t'es libre quand? Dans 15 jours, t'es libre?
C'est quand? Dans 15 jours?
Dans 15 jours.
4 novembre. 4 décembre.
4 décembre, ben, on n'a pas l'intention de faire la révolution d'ici là, non? Je risque d'être en retard si on fait la révolution.
Moi je veux bien, mais je ne suis pas sûr que les cons soient d'accord.
Oui. Donc oui, pourquoi pas, oui. Mais en sortant, on va en parler. Hein. C'est mieux de...
Voilà. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, on se revoit. Donc normalement, on se réentend, on se reparle. Donc le 4 décembre, pour une prochaine émission. Sur Radio Libertaire, dans le monde merveilleux du travail. Et puis, je vous une petite annonce quand même avant qu'on lance le générique de fin. C'est le soutien à la lutte CNT contre People and Baby le samedi 25 novembre. Une projection débat quand les femmes ont pris la. Je sais pas parce qu'en plus, ça m'a. Voilà ce que j'ai imprimé. Bon, enfin bref, il y aura un débat. Une projection débat. C'est de Chapdelaine et Vautier, en présence de Chapdelaine et Vautier, suivi d'un concert Julie Collet, René Binamé, Los Tres Puntos et Duba Mix, qui est souvent sur les actions de People and Baby. Le problème, c'est que je sais. Ben tiens, tu l'as dans les mains, toi, donne-moi ça. Vaut rien.
T'as vu ce que c'est que le syndicalisme de maintenant?
C'est écrit petit. Vas-y.
Où est-ce que ça se trouve?
Tu veux que je te le dise?
Vas-y, Norbert.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Soutien la CNT.
Contre la privatisation
de la petite
enfance. Ça lutte encore, samedi 25 novembre à 16h. La parole des rentes à Montreuil. Alors, vous aurez des projections, débats et concerts prix libre.
C'est ce que je viens de dire.
Voilà. Alors, au soutien, comme on vient de le dire, donc aux travailleurs de la petite enfance en lutte contre People and Baby. Je te dis le restant aussi, là, depuis 2009.
Donc, c'est le 25 novembre. Voilà, l'adresse, on peut le dire, ça met trop Croix de Chavaux, je crois.
Oui, voilà. L'adresse, je ne sais pas s'ils l'ont mis là, ou alors ils l'ont mis en petit.
Bon, c'est la parole errante.
C'est la parole errante. Et le problème, c'est qu'ils
ont... Allez sur Internet, sur...
Voilà. Mais de toute façon, voilà, c'est la Croix de
Chavaux. Sur les réseaux sociaux,
c'est à peu près un quart d'heure de marche, à peine, 10 minutes.
C'est trop proche du métro.
10 minutes de marche pour y arriver.
Ouais. Le troisième marche bien diminué vous salue quand même, ce soir.
Troisième âge, comme il n'a rien foutu pendant toutes ces décennies d'activité, il est en bon état, c'est ça?
Tu as lancé le générique, penses-tu? Et on va laisser un peu le son. Voilà. Et puis on va avoir trouvé Jean-Manuel pour le Proton se rebiff.
Ils font plus non, plus de république, plus de Sénat et plus de Parlement.
Hey, ciao!
Cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout,
vous alliez le faire gagner,
parce que c'est notre projet.
Vive la
révolution.
Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est le Proton se rebiffe et je suis Nestor Potkin. Ce soir, nous allons parler d'un livre pas très récent puisqu'il a été publié en 1992 et dans la collection Pluriel, pas spécialement marqué à gauche. Mais les informations qu'il contient sont plus qu'instructives. Il s'agit de « À qui profite la cocaïne ?» de Mylène Sauloin et Yves Le Boniek. Mylène Sauloin était correspondante de presse à Bogota, en Colombie donc. Et Yves Le Boniek est bien moins célèbre que son livre le plus célèbre, « Suicide, mode d'emploi ». 1992, oui, bien entendu, les chiffres que donne ce livre sont à peu près tous à revoir, mais en bien pire. En revanche, les structures, plus exactement les compromissions, les mensonges et les hypocrisies qu'ils dévoilent, sont dans une santé resplendissante. Guerre de mystère quant à l'argument primordial du livre. Quoique les États en général, et les États-Unis en particulier, prétendent combattre la drogue en général, et la cocaïne en particulier, en fait le marché de la cocaïne arrange beaucoup de monde en général, et les États en particulier. L'intérêt du livre est de montrer en détail, de manière tout à fait concrète, comment cette collusion fonctionne. Souvenons-nous, avant tout, que les classes dominantes n'ont jamais craché sur l'idée d'utiliser les drogues pour raffermir leur contrôle. La Grande-Bretagne a même fait la guerre à la Chine au XIXe siècle pour lui imposer l'usage de l'opium. Les ravages de la vodka en Russie
ont pris une ampleur toute nouvelle sous les tsars, qui virent dans cette liqueur un double avantage. Une considérable source de revenus, d'une part, et d'autre part, un moyen facile de détourner les frustrations et les colères populaires. Et ne parlons pas de l'usage de la gnôle pour les poilus dans les tranchées françaises de la guerre de 14. Une citation très parlante inaugure le chapitre 1 de « À qui profite la cocaïne ?» Le trafic de drogue fait partie d'un mécanisme d'autodéfense des Colombiens. Chacun se défend comme il peut, chacun est décidé à ne pas mourir de faim. Certains écrivent, certains trafiquent, certains font des films, d'autres sont présidents de la République, mais personne ne se laisse mourir de faim. Qui sait où en serait la Colombie sans les drogues? Qui sait le niveau de délinquance que nous atteindrions s'il n'y avait cet espace pour respirer, ménagé par le trafic de drogue? Il faudra bien un jour voir tout ça avec objectivité. On peut l'approuver ou le désapprouver, mais c'est notre réalité. Fin de citation. De qui donc est cette stupéfiante citation? De Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature et auteur de « Cent ans de solitude ». Commençons par le commencement. En 1975, les GIs reviennent du Vietnam, défoncés jusqu'aux yeux. Ils veulent, pas encore de la coke, ils veulent de l'herbe, du shit. Parmi eux, bon nombre de pilotes d'avions qui vont se reconvertir dans la contrebande et qui découvrent que la Colombie est parfaite pour la culture de cannabis sativa. Le choc fut puissant en Colombie. On y raconte encore l'anecdote d'un trafiquant grisé qui s'achète 30 Toyota d'un coup, vite détruite par son style particulier de conduite, et qui en recommande de rechef 30 autres. Dans une ville tout entière dédiée à la culture, on voit pousser des immeubles de 10 étages, alors même que la municipalité ne crée ni eau courante, ni tout à l'égout. Bref, youpi, pendant quelques années. Mais, considérations électorales obligent, les USA font pression pour que l'on détruise les plantations à coup d'un produit sympathique appelé glyphosate. Que le bétail en meure et que les paysans en tombent malades, peu importe. D'autant que les citoyens états-uniens découvrent alors que cannabis sativa prospère au pays des burgers et le font pousser tranquillement chez eux. Mais les entrepreneurs colombiens, eux, se lamentent. Mais l'expérience gagnée dans le trafic de marijuana va leur servir. Quand un certain Carlos Leder, immigré aux USA, pas très heureux du racisme anti-latino qui y règne, découvre que les Bahamas, déjà un paradis fiscal, seraient en plus un très utile point d'entrée de la cocaïne aux USA. Or, la cocaïne, pour la faire, il faut des feuilles de coca, et le cocaïer n'aime pousser que sur les contreforts des Andes, donc dans 3 pays seulement, la Bolivie, le Pérou et, bingo, la Colombie. Quant aux Bahamas, on y trouve des dizaines de criques tranquilles, de petites îles que l'on peut équiper, de petites pistes d'atterrissage. Bref, tout ce qu'il faut pour réceptionner de la cocaïne et l'envoyer à Miami. Bon, à Miami, il y avait des mafias locales, mais les Colombiens les mirent hors de combat en quelques années. Et déjà, un petit bonhomme, ex-réparateur de bicyclettes, qui avait réussi à se faire un petit capital, oh, juste avec la rançon d'un ou deux enlèvements, un certain Pablo Escobar, se lance dans les années 75. Il y réussit. En 78, il achète son premier avion. Notons que pendant ces années-là, l'industrie américaine étrangle plus ou moins beaucoup d'industries colombiennes flageolantes et que, dès le départ, les élites colombiennes marchent dans la combine avec enthousiasme. En particulier, grâce à une idée de génie de Pablo Escobar pour diminuer, ou plus exactement, répartir les risques. Cette idée de génie, ça s'appelle l'apuntame. En espagnol, apuntame signifie « inscris-moi ». Je cite à nouveau directement le livre « À qui profite la cocaïne ?», un livre de poche paru dans la collection Plurielle. Avant chaque envoi, Pablo faisait la tournée des industriels. Chacun lui disait « Inscris-moi, inscris-moi pour 20 kilos ou pour 50 kilos ». Si le chargement passait, les narcos payaient. Sinon, tout le monde perdait. Les directeurs des grandes fabriques de textiles, Colletière ou Fabricato, ceux des usines Corona, tous ont joué à la Puntane. Fin de citation. Et comme les sommes arrivant en Colombie plus directement, les stupéfiantes quantités de coupures de 10 ou 20 dollars devaient bien trouver une destination, la Banque centrale de Colombie ouvrit un guichet spécial où l'on ne posait pas de questions désagréables quant à la provenance des centaines et centaines de kilos de billets verts. Ce comptoir y gagna un amusant sobriquet, le guichet de gauche. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est toujours Le Proton se rebiffe, où nous parlons ce soir du livre de Mylène Saulois et Yves Le Boniek, À qui profite la cocaïne, dans la collection plurielle. Le trafic de drogue est si bien vu en Colombie que Carlos Leder, de retour dans son pays natal, n'hésita pas à fonder un parti politique qui ne cachait guère ses origines et ses buts. Leder, le premier grand narcotrafiquant, écrivit des manifestes publiés en pleine page dans les quotidiens colombiens. En voici un extrait. Je rappelle avant que DEA signifie Drug Enforcement Agency, l'agence d'application des lois sur la drogue, qui est la principale institution états-unienne de lutte contre la drogue. Donc, voici l'extrait de cette d'une des proclamations de Carlos Leder. Colombiens, les vautours de la CIA et de la DEA attendent sur leur toit les dépouilles de la bataille. La lutte de Reagan, avec sa DEA et sa CIA et son Air Force, vise à nous empêcher, nous, les Latino-Américains, à avoir accès au dollar. Des centaines de Colombiens sont qualifiés d'indignes pour avoir osé tirer profit des lois universelles du commerce et du troc. Les procédés judiciaires, policiers et carcéraux servent bien peu à résoudre ou enrayer le phénomène de la drogue. Qui est plus fort, Hercule ou Socrate ? Nous avons besoin, dans le cadre du phénomène de la drogue, de penseurs, pas de matraques, et sûrement pas de compromettre notre souveraineté ou nos industries autochtones. » Fin de citation. Il faut avouer que, dans le genre culotté, Trump, Zemmour ou Macron peuvent aller se rhabiller en comparaison de ce narcotrafiquant colombien. Et notre bon Carlos Leder de se répandre en meetings électoraux où l'on distribuait à la foule, comme les empereurs romains à la plèbe, des paniers de victuailles, des tickets gratuits pour des tombolas dont le gros lot pouvait être une maison tout équipée, des tickets gratuits pour des matchs, pour des spectacles, oui, Panem et Circenses. Et la foule ravie de reprendre en chœur « Leder es el líder !» Sur quoi, Carlos Leder, après avoir fait admirer ses pectoraux de karatéka, repartait en hélicoptère. Pablo Escobar, lui, choisit d'un autre chemin, que le livre appelle « infiltration » et que nous pourrions appeler « entrisme ». Entrisme où ? Dans le parti libéral. Et cela marcha à merveille. Pour comprendre pourquoi, Soloa et Le Boniek nous citent un membre de l'élite colombienne. La Colombie est un pays qui s'est bloqué, gelé au XIXe siècle, qui n'a jamais pu construire une société moderne. Un cadre juridique complètement dépassé, des institutions souvent décalquées sur la France, mais inadaptées à la vie du pays, schizophrénique, et la société la plus inégalitaire d'Amérique latine après le Brésil, la plus élitiste, la plus hiérarchisée, la plus classiste. On ne trouve une concentration de pouvoir aussi fantastique que dans les monarchies arabes. Un de mes amis compte 3 anciens présidents de la République du côté de son père et 3 autres du côté de sa mère. Son père était à la fois maire de Bogota et directeur du Tiempo, le premier quotidien national. C'est un pays où il n'y a pas de mobilité sociale. Le trafic de drogue pourrait être une sorte de réponse maladive à une structure trop rigide et permettrait de sauter les étapes de la promotion sociale. Les trafiquants voudraient être une élite de substitution, mais ils n'ont pas de vision politique du pays, pas de projet de société. Tout le monde s'est enrichi en Colombie. La classe moyenne a travaillé pour le secteur financier, courroie de transmission des narcos, et pour l'agroalimentaire des narcos, et dans tout l'immobilier, partout il y a des liens. Et tout le monde sait que la fuite des capitaux organisée par l'élite s'est faite en permutation avec l'argent de la drogue, mais personne ne l'avoue. Fin de citation. Un slogan du narcotrafiquant Carlos Leder résume très bien cette situation. Mieux vaut des dollars chauds au pays que des dollars froids à Miami. Et Carlos Leder d'ajouter: une fois qu'il est en Colombie, le dollar des Colombiens, d'où qu'ils viennent, est colombien. Et le nôtre vaut mieux que celui du FMI, qui vient imposer ici ses politiques de chantage et d'extorsion. Les Yankees emportent nos richesses, l'or, les émeraudes, le pétrole, le café, les bananes. Nous, nous ramenons des dollars qui sont à nous, les Colombiens. Fin de citation. Qui eût cru que les déclarations d'un narcotrafiquant seraient aussi amusantes et aussi révélatrices de ce grotesque et brutal panier de crabes appelé capitalisme? Ces déclarations de narcotrafiquants sont l'un des trésors de ce livre « À qui profite la cocaïne » de Mylène Soloa et Yves Le Boniek. Donc, en voilà encore une autre. Les Colombiens s'adaptent partout. En Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, en Libye ou au Maroc, les élites, des rois, des présidents, des dirigeants, offrent toute l'infrastructure si on s'engage à investir dans le pays. Ils te donnent la nationalité, les papiers, des voitures blindées, des protections dans les aéroports. Au Maroc, on atterrissait sur des pistes militaires et on voyageait sous escorte jusqu'à un endroit près de Ceuta, d'où on expédiait vers l'Espagne. Un ami à moi négocie directement avec la police marocaine. Dans ce pays, tout est arrangé pour le haschich. Il suffit d'annoncer que tu trimbales du hash sous ton chargement de marchandises diverses, de payer les pots de vin habituels, et ça passe. Comme la police espagnole en croque aussi, il n'y a pas de problème. En Sierra Leone, la négociation se faisait directement avec le chef de l'État. Il nous offrait des bateaux, des gardes du corps, des banques pour déposer l'argent, tout ce qu'on voulait, à nouveau, à condition d'investir dans des industries sur place. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est toujours le Proton Sort Bif, où nous parlons ce soir du livre de Mylène Sauloy et Yves Le Boniek, À qui profite la cocaïne, dans la collection Pluriel. Nous venons de voir que la cocaïne profite grandement aux élites et aux gouvernements non seulement de pays tels que la Colombie, le Pérou ou la Bolivie, mais aussi à ceux des pays par lesquels la cocaïne transite. Mais il commença à se produire un effet aussi inattendu que dangereux. La lutte états-unienne officielle contre la cocaïne visait exclusivement l'offre. Strictement rien n'était fait pour essayer de comprendre pourquoi tant de personnes états-uniennes ou occidentales veulent prendre un produit tellement toxique. Évidemment, se poser cette question, c'est risquer de comprendre que le mode de vie états-unien est toxique, que les valeurs états-uniennes sont toxiques, que le capitalisme est toxique. En tout cas, ce qui se passa, c'est que la guerre à la cocaïne remporta de grandes victoires contre les petits trafiquants. Ceux que d'immenses riches et puissantes institutions comme la DEA ou les douanes américaines pouvaient aisément identifier et écraser. Le problème, le marché fut nettoyé de ses petits concurrents, ce qui facilita grandement la tâche des cartels qui devinrent au pire des oligopoles, au mieux des monopoles. Les chiffres surprennent. En 1980, la pureté moyenne de la cocaïne saisie était de 12%. En 1981, on bondit à 21% et en 1984 à 35%. En même temps, un gramme vendu dans la rue coûtait 125 $ en 1981. En 1982, le gramme vendu dans la rue descend à 118 $. En 1984, à 100 $. On estimait alors que 5 millions d'États-Unis, je répète, 5 millions, en prenaient régulièrement. On estimait la quantité importée en 1982 à 32 tonnes, mais en 1985, on passe déjà à 72 tonnes. Et tout à fait franchement, ces deux derniers chiffres sont complètement établis au doigt mouillé. On peut aisément imaginer bien pire. Les cartels, eux, s'industrialisaient rapidement. On saisit par exemple en 1984 un laboratoire dans la forêt vierge dans lequel on trouva non seulement des dortoirs tout à fait confortables, dotés de machines à laver, de fours à micro-ondes et d'un casino, qui abritait probablement un bon millier d'employés, mais en plus on trouva des machines à empaqueter, des épurateurs de gaz, des groupes électrogènes, des chariots Fenwick, oui, je répète, là aussi, des chariots Fenwick, des jeeps, des pelleteuses pour les pistes de décollage, une dizaine de milliers de barils d'éther et d'acétone, je répète encore, une dizaine de milliers de barils d'éther et d'acétone, 12 tonnes de pâte base de coca et 2,5 tonnes de cocaïne très pure, soigneusement et rigoureusement emballées en paquets d'un kilo. Pas gêné, le cartel de Medellín s'arrangea pour déclarer, 2 mois après cette saisie, qu'il gagnait tout de même à peu près 2 milliards de dollars par an. Non, je ne parle pas de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je parle de 2 milliards de dollars en bénéfices. Incidemment, meilleure qualité, prix plus bas, marchandises de plus en plus addictives, cela fidélise la clientèle. En 1988, le FBI enregistrait aux USA la bagatelle d'1 million d'arrestations pour usage de drogue. Le livre de Mylène Sauloy et Yves Le Bonnec, à qui profite la cocaïne, analyse ensuite longuement une lutte complexe entre États-Unis, État colombien, élite colombienne, cartel de Cali et cartel de Medellín, que ce dernier perdra au final, puisque la plupart des associés du cartel de Medellín n'étaient pas des membres des élites colombiennes, à l'inverse de la plupart de ceux des membres du cartel de Cali. Et, malicieusement, les auteurs citent Guy Debord. On se trompe chaque fois que l'on veut expliquer quelque chose en opposant la mafia à l'État. Ils ne sont jamais en rivalité. La théorie vérifie avec facilité ce que toutes les rumeurs de la vie pratique avaient trop facilement montré. La mafia n'est pas étrangère dans ce monde. Elle y est parfaitement chez elle. Elle règne en fait comme le modèle de toutes les entreprises commerciales avancées. Fin de citation. Entre autres astuces, le cartel de Cali savait informer la police colombienne, afin que celle-ci fasse belle figure, de l'existence des laboratoires dont il ne se servait plus. Le cartel de Cali savait permettre une belle saisie de 50 kilos de cocaïne quand les chimistes entre guillemets, avaient mal raffiné un lot. Et l'armée colombienne? Eh bien, l'armée colombienne a plusieurs raisons d'aimer la cocaïne, la guerre contre la cocaïne. Parce que la guerre contre la cocaïne, cela signifie l'état de siège. L'état de siège, cela signifie double solde pour demi-temps de service. Magnifique, se disent le soldat de base et le sous-officier, lesquels louent de temps en temps leur service aux narcotrafiquants pour éliminer un collègue désagréable, par exemple. Les marins en croquent aussi, puisqu'en 1974, un port américain se voit dans la désagréable position de devoir arraisonner un vaisseau de la marine colombienne bourré jusqu'à la gueule de substances interdites. Et l'aviation colombienne, eh bien, elle a parfois carrément déménagé des laboratoires pour les cartels d'une jungle à l'autre. Et les effets indésirables de renforcer les cercles vicieux. La police des ports colombiens est si corrompue que l'on décide d'en changer le personnel tous les 2 ans. Oui, mais les nouveaux savent qu'ils n'ont donc que 2 ans pour faire fortune. Alors, ils réclament tout de suite leur pourcentage aux narcos et se permettent, comme tant de policiers antidrogues, de ne pas déclarer la totalité de leur saisie afin de vendre par eux-mêmes la différence. J'ignore s'ils revendent ces excédents aux mêmes trafiquants à qui ils les ont confisqués. Ce serait savoureux. Les auteurs de « À qui profite la cocaïne ?» rapporte même les propos d'un membre de la police des polices colombienne. Dès qu'il est nommé à Medellín, un officier antidrogue reçoit du cartel les clés d'un appartement. Au début, il se contente de prévenir le parrain des opérations à venir. Ensuite, il prend lui-même la tête d'un réseau. Un général était même propriétaire de grandes plantations de coca. Fin de citation. Le problème principal, bien sûr, c'est l'attitude du gouvernement du plus grand marché de la cocaïne, les États-Unis. Et là, le livre de Soloy et le Boniek devient de plus en plus intéressant. Voici ce que a déclaré le grand narcotrafiquant Carlos Leder. La DEA utilise la cocaïne pour faire de la politique. Ses agents jouissent d'une sorte d'immunité en Colombie. Ils s'en servent pour pousser des clans à se battre entre eux. La DEA a ses propres trafiquants qui ont toute licence pour travailler tant qu'ils livrent certaines personnes. La DEA a accordé l'immunité à certains trafiquants pour qu'ils en combattent d'autres. Fin de citation. Et puis, encore une autre citation des plus éclairantes. J'ai connu un professeur d'université à Barranquilla auquel un agent de la DEA venait souvent proposer d'exporter 1 ou 2 kilos. Finalement, il a accepté, il a été arrêté et extradé. Ça a fait du barouf. C'est assez fréquent que des gens de la DEA te proposent des affaires comme ça. Des types qui veulent de l'avancement et qui sont prêts à inventer n'importe quoi, à monter n'importe quel coup. Ça vaut même pas la peine de les descendre. Au contraire, ils peuvent même être utiles. Ça permet de localiser les autres. Des fois, ces gars de la DEA montent des affaires dans l'idée de remonter vraiment jusqu'aux gros trafiquants qui les intéressent. Mais en attendant, hein, ils achètent la marchandise pour de bon. Pendant 4 ans, Pablo Escobar a eu un pilote qui était de la DEA, un type qui essayait toujours de l'embarquer avec lui sur les vols vers les États-Unis. À la fin, il a réussi à emmener un de ses lieutenants qui a été arrêté par les Américains. Mais la DEA se foutait que les trafics continuent et que la coke se distribue aux États-Unis. Tout ce qui les intéresse, c'est une capture à grand spectacle. Fin de citation. Let me do it to you. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est le Proton Sorobif, où nous parlons ce soir du livre de Mylène Sauloin et Yves Le Boniek, À qui profite la cocaïne, dans la collection Plurielle. Ce livre extraordinaire compte aussi de nombreuses pages qui démontrent à quel point Noriega, l'ancien dictateur du Panama, travaillait avec tout le monde, les narcotrafiquants bien sûr, de manière quasi officielle, mais aussi la DEA, les douanes américaines et, plus savoureux encore, la CIA, dès lors qu'il s'est agi de trouver un financement pour les Contras, c'est-à-dire, souvenez-vous, les ennemis des sandinistes, en ces temps lointains où Daniel Ortega était réellement de gauche. En effet, on s'en souvient, financé directement sur le budget américain officiel et Contras, ça affichait un peu mal. Ça exposait le fonctionnement de l'impérialisme, colonialisme états-unien de manière un peu trop évidente. C'est la raison pour laquelle Ronald Reagan et son vice-président George Bush père vont dire à la CIA de trouver d'autres sources de financement. L'une des plus importantes sera le trafic de cocaïne. Admirons donc l'intense hypocrisie des gouvernements états-uniens successifs qui, d'un côté, jurent au public que leur obsession, leur quête du Graal, c'est la lutte contre la vilaine drogue, et qui, de l'autre, en réalité, protègent les narcotrafiquants en échange d'une part considérable des bénéfices. On a donc deux échelons, deux niveaux. Le plus bas, la DEA, qui en fin de compte est bien contente qu'il y ait du trafic de cocaïne, puisque cela justifie son existence, ses salaires, ses carrières, et qui donc sélectionne quel trafiquant protégé et quel trafiquant arrêté pour avoir l'air de faire du bon travail. Et puis il y a le niveau le plus haut, la CIA, ravie que le financement de la lutte contre le communisme en Amérique du Sud soit assuré sans grande difficulté par le trafic de drogue, et qui va donc non seulement encourager les gouvernements sud-américains à protéger les narcotrafiquants, mais qui va carrément ordonner aux douanes américaines, aux contrôles aériens américains, aux ports américains, etc., de laisser passer les avions ou les conteneurs des narcotrafiquants, et qui va également les aider à blanchir les milliards de dollars gagnés, et ceci va faire de gros chapitres du livre dont nous parlons. Mais avant de parler blanchiment, penchons-nous un instant sur une manœuvre particulièrement machiavélique. On sait que les bénéfices du trafic de drogue sont tellement colossaux qu'un grand nombre de mouvements révolutionnaires ont fini par céder eux aussi à la tentation, le plus célèbre étant bien sûr les FARC colombiennes. Voici ce qu'en disent Sauloin et Le Boniek. Par bien des traits, le trafic de drogue porte la marque d'un capitalisme brut, agressif, primitif. Taux de profit exorbitant, absence de toute réglementation des marchés, concurrence sauvage favorisant la naissance de cartels ou de monopoles. En s'avisant de lever l'impôt sur la production ou les transactions, en tarifant leur production armée ou en se lançant tout simplement eux-mêmes dans le trafic, les révolutionnaires se trouvent intéressés à la bonne marche des affaires. Ils entrent dans une logique qui ne devrait pas être la leur. Le partenariat avec les trafiquants est évidemment riche en tentations pour les cadres et les militants préposés aux opérations de financement. Nombre d'entre eux se convertissent en hommes d'argent, fascinés et obsédés par le business. Pour la cause d'abord, mais à leur compte ensuite, ou concurremment. Au départ, le trafic subventionnait l'instrument de la révolution. Peu à peu, la guérilla, le parti, se métamorphose en appareils qui n'ont plus d'autre but que leur propre perpétuation. Fin de citation. Sauloin et Le Boniek, en tire l'inévitable et narquoise conclusion. Pour les États-Unis, le commerce de la cocaïne serait une filière très efficace d'exportation de la morale capitaliste. Fin de citation. Et quant à la notion d'appareil qui oublie leur mission première et ne travaille plus que pour perpétuer leur propre existence, le livre cite une déclaration au Congrès américain d'un cadre de la DEA en 1987. Souvenons-nous qu'à peu près tous les chiffres cités par ce livre, publié en 1992, sont en 2023 à augmenter considérablement. Donc, que dit ce monsieur de la DEA au Congrès ? De nouvelles lois du Congrès nous ont donné de nouveaux outils. Par exemple, l'année dernière, nous avons saisi en biens divers plus que notre budget, qui est de 390 millions de dollars par an. Cette année, l'allure s'est accélérée et nous avons déjà dépassé les 200 millions de dollars et nous sommes en mai. Ainsi, au bout du compte, nous nous autofinançons quasiment. Les nouvelles lois nous ont autorisés à compenser toutes les dépenses engagées dans ce programme en récupérant les fonds des trafiquants. Alors, en théorie au moins, travailler comme ça ne nous coûte pas grand-chose. Fin de citation. Il faudrait être un saint pour ne pas céder, au moins implicitement, à la tentation de ne pas trop taper sur un trafic qui permet à une agence gouvernementale de fonctionner à coût zéro. Et puis, une fois l'Union soviétique écroulée, une fois les sandinistes chassés du pouvoir, les USA manquaient d'ennemis. Car un pouvoir impérialiste, mais malgré tout un peu démocratique en interne, ou en tout cas soumis à des élections de temps en temps, il faut un ennemi pour justifier le maintien de ses colonies explicites ou implicites, d'une part, et d'autre part, pour détourner l'attention de ses insuffisances en politique intérieure, pour parler poliment. C'est la raison pour laquelle, après le communisme, les USA vont se trouver deux ennemis, l'islamisme et le trafic de drogue. L'islamisme, on le sait, est apparu entre autres grâce à Osama Bin Laden et à sa créativité dans l'art du massacre de masse, je parle bien entendu des 3000 morts du 11 septembre. Les crétins de Dieu ont eu ensuite la courtoisie de continuer à démontrer leur maîtrise de toutes les formes de l'horreur, que ce soit avec l'effrayant État islamique ou même, tout récemment, avec le non moins ignoble Hamas. Tout ceci arrange bien les USA, qui ont besoin de bonnes justifications pour tenter de défendre leur contrôle du pétrole mondial, entre autres. Le terrorisme islamiste, toujours si commodément renaissant, est également l'un des arguments de la droite américaine pour préserver le port d'armes aux USA. Mais Mylène Sauloin et Yves Le Bonnec nous présentent encore l'une des raisons pour lesquelles, en dépit de toutes les déclarations officielles, le trafic de cocaïne en particulier et celui de la drogue en général arrange bien les États-Unis. Très simple. L'argent de la drogue, c'est le dollar. Même si à présent le marché de la cocaïne est mondial, non, l'argent de la drogue, c'est toujours le dollar. Parce que l'argent du blanchiment, c'est le dollar. Mettez-vous, chère auditrice de Radio Libertaire, à la place d'un narcotrafiquant. Oui, je sais, il y a peu de chances pour que les personnes qui écoutent Radio Libertaire manipulent et la poudre et la kalachnikov et les millions. Mais bon, vous venez de récolter dans l'année, mettons, 100 millions de dollars. Mettons, pour faire simple, 100 millions de dollars de bénéfices. Oui, mais ces 100 millions de dollars sont en espèces et ils sont illégaux. Alors, dans le blanchiment, vous pouvez passer par les PME ou vous pouvez décider de passer par les grosses entreprises. Alors, commençons par un témoignage cité dans le livre. Le patron est prévenu par fax. C'est un témoignage de 1991. Quand ça arrive. Il nous appelle. La laitue est arrivée. Nous partons faire la tournée en bagnole le matin à 7h et parfois jusqu'à 11h du soir. 500 000 ici, 4 millions là. On empile les billets. Quand les bureaux sont fermés, on va à domicile. On tombe sur des vieux analphabètes qui manipulent des dizaines de milliers de dollars en coupure de 20 et 50. Ils les comptent et éliminent les faux à une vitesse record. Après, il faut entasser tout ça dans la voiture. Et on en perd, on en déchire. Là, j'en ai jusque sous l'accélérateur. Ensuite, il faut recompter. Ouh, avec les dollars, on finit par voir tout en vert. Tout marche à la confiance. Les malins qui croient pouvoir s'envoler avec le fric, ils se font toujours coincer. Bon, l'autre jour, le patron voulait des pesos. Alors, j'ai dû faire la queue à la Banque de la République avec 90 000 dollars dans une boîte en carton. Ça fait 56 millions de pesos. J'en ai rempli 2 sacs poubelles. Et c'est lourd. Presque tout le liquide part vers un marché parallèle à Pereira. Les flics sont achetés sur la route. À l'arrivée, les gars paient 15 pesos. En 1991, 15 pesos, ça faisait un peu moins de 15 centimes. Donc 15 pesos par dollar lavé. On croit que ça n'a l'air de rien, mais ça porte sur des sommes astronomiques. Fin de citation. Là, le livre nous parlait des PME, du blanchiment. Pour les grosses entreprises, bien entendu, on parle d'avions, de bateaux, de paradis fiscaux. Mais la destination ultime de tout cet argent blanchi, la Colombie ? Oui et non. Comprenons d'abord qu'effectivement, la manne des coca-dollars y est certes la bienvenue. Voilà encore une citation du livre. La production de cocaïne n'augmente pas seulement en raison de la forte croissance de la consommation de drogue dans les pays riches. Elle augmente parce que les prix des autres produits diminuent. Le pétrole, le café. Par conséquent, en Colombie, il y a de moins en moins de rentrées de devises. Face à cela, la seule entreprise transnationale qui marche, cela fait mal de le reconnaître, c'est la chaîne des cartels qui introduisent la drogue dans les pays riches. D'autre part, au cours des 10 dernières années, notre continent s'est décapitalisé. En 1979, il devait 191 milliards de dollars. Pendant la décennie qui a suivi, il a payé 258 milliards de dollars, mais au bout du compte, il doit encore 430 milliards de dollars, alors que les prix de ses matières premières chutent et que la valeur de ses productions s'effondre. Dans ces conditions, chaque année, dans les pays andins, la terre consacrée à la culture de coca augmente de 10%. Fin de citation. On comprend avec cette citation l'utilité des narcodollars pour les économies de l'Amérique latine. Le livre, à qui profite la cocaïne, décrit aussi l'économie péruvienne qui vit les yeux fixés sur le Jirón Ocoña, une ruelle sombre de Lima, où officient sur 100 mètres à peine des milliers de vendeurs, calculettes en main et liasses de billets sous le bras. En 1989, plus de 50 millions de dollars par mois ont fait un détour par cette ruelle avant d'être réinjectés d'une manière ou d'une autre dans l'économie péruvienne. La Banque centrale du Pérou ne fait pas tant de manières, elle achète à Ocoña. Fin de citation. Seulement voilà, un dollar en Colombie, ça achète des Ferrari et des haciendas, mais ça ne fait pas des petits. Et donc, en capitaliste avisé, les narcotrafiquants, au bout du compte, au bout des paradis fiscaux, envoient leurs dollars aux États-Unis, là où les dollars font des petits. La question qui demeure donc est celle-ci, les narcodollars sont-ils les bienvenus aux États-Unis ?
Sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est le Proton se rebiffe, où nous parlons ce soir du livre de Mylène Saulois et Yves Le Boniek, À qui profite la cocaïne dans la collection plurielle. Et nous posions une question, est-ce que les narco-dollars, les coca-dollars, les dollars des trafics de drogue, sont les bienvenus aux États-Unis? Par exemple, dès 1978, la préhistoire, les banques de l'État de la Floride avaient versé 3 milliards de dollars en liquide, je répète, en liquide, aux agences de la Federal Reserve à Miami. On vit une banque qui n'avait déposé que 10 millions en liquide en 1978, en déposer soudain 600 millions en 1979. Vous allez me dire, mais non, impossible, les banques n'acceptent pas si aisément des versements aussi colossaux en liquide, ou en tout cas, pas sans les déclarer aux États, aux autorités, comme par exemple Tracfin en France. Oui, mais dans nos chers États-Unis, la banque pouvait décider de ne pas reporter des gros versements en liquide s'ils étaient effectués par un client, ouvrez les guillemets, connu, fermez les guillemets, de l'établissement. Et il y a plus d'une dizaine de milliers de banques différentes aux USA. À Miami même, dans ces années-là, 40 d'entre elles ne déclaraient carrément jamais les versements en liquide, alors que leur amabilité en matière de blanchiment leur valait le surnom de laverie automatique. On les comprend parce que leur discrétion leur valait une commission de 3%. 3%, c'est pas grand-chose. Ou si, 3% de 600 millions de dollars, ça fait la bagatelle de 18 millions de dollars. Mais très rapidement, les grandes banques, comme par exemple Citibank, longtemps la plus grande banque américaine, se mirent à accepter avec grand plaisir les énormes masses de capitaux déposées par les narcotrafiquants. Devant le Sénat américain, un blanchisseur a déclaré « Par des collègues de confiance à Panama, je faisais prévenir que j'arriverais à New York tel jour pour discuter de tel prêt, de tel certificat de dépôt. On venait me chercher en limousine à l'aéroport. Je négociais des placements qui pouvaient atteindre 200 millions de dollars sur un seul certificat de dépôt. On ne peut pas placer des capitaux de ce genre dans une banque petit bras de Des Moines, Iowa. » Fin de citation. Et le directeur national des impôts colombiens, qu'est-ce qu'il en dit? L'un des paradoxes évidents de cette guerre à la drogue, c'est que les capitaux des narcos ont trouvé refuge aux États-Unis. Ils y sont en sécurité parce que les Américains défendent leurs secrets bancaires et favorisent les paradis fiscaux. Ou ils lèvent le secret dans certains cas, mais ils s'arrangent pour ne pas effrayer les capitaux. Fin de citation. D'ailleurs, l'un des arguments utilisés aux États-Unis même pour défendre le secret bancaire est que si l'on effraie les capitaux, on renforcera d'autant les paradis fiscaux à l'étranger. Un argument qui serait parfaitement valable
si les USA n'avaient pas les moyens militaires de mettre fin aux paradis fiscaux dans le monde. Oh, bien sûr, on mit bien vite en place une réglementation qui exigeait que toute personne entrant aux USA avec plus de 10 000 dollars en liquide devait les déclarer. Mais voici ce qu'en a dit un trafiquant. En remplissant le formulaire 4790, nous étions toujours en mesure de justifier les énormes sommes en liquide que nous avions sur nous, parce que nous nous étions rendus compte que rien n'était prévu pour en faire le suivi. Le formulaire 4790 était rangé dans un dossier et personne n'en faisait plus rien. Les restrictions concernant les dépôts en liquide de plus de 10 000 dollars ne gênaient que les laveurs du bas de l'échelle, mais favorisaient les gros. Pourvu que les millions de dollars soient dûment consignés sur le fameux formulaire, on passait la douane les doigts dans le nez. Si vous remettiez un formulaire 4790 de 2 millions de dollars au douanier de l'aéroport, le type le regardait, disait « merci beaucoup », le balançait dans une chemise marquée 4790 et vous pouviez sortir tranquille. Fin de citation. Comme la chose fit un peu scandale, on créa un centre de tri de ces formulaires à Détroit. Mais comme le fisc états-unien en reçut 8 millions, je répète, 8 millions de formulaires en 1989, et qu'il n'assigna que 93 employés pour les 30 000 déclarations par jour, je donne là les chiffres du livre donc de 1992, on imagine l'étincelante efficacité du dispositif. Un autre très joli chiffre, pour 1992, on estimait l'injection de narcodollars de la cocaïne dans l'économie états-unienne à 26 milliards de dollars en 1992. Or, souvenons-nous d'une chose fondamentale. Le consommateur états-unien épargne très peu. Il dépense comme un fou, et même l'argent qu'il n'a pas. Je rappelle que les citoyens des États-Unis reçoivent des cartes de crédit par la poste. Par la poste. On en envoie sans savoir si les gens les ont demandées. Et ce sont des cartes de crédit. C'est-à-dire, c'est du crédit. Sur ces cartes, il y a 10 000 dollars, 20 000 dollars de l'argent que ces citoyens n'ont pas et qu'on leur prête. Ah oui, mais on le leur prête à 15% ou 20% d'intérêt. Multipliez ça par 300 millions d'États-Unis. Ça veut dire que l'économie américaine n'arrive pas à se financer par l'épargne nationale. Donc, elle se finance par la dette internationale. Et incidemment, ironiquement, son plus gros financier, on le sait, c'est la Chine, glissons. Mais cela signifie aussi que les États-Unis ont trop faim de capitaux étrangers pour financer leur déficit, pour faire la fine bouche devant les narcodollars. Pour mémoire, on sait que depuis le 30 septembre 2023, date de clôture de l'année fiscale aux USA, le déficit du gouvernement fédéral se monte à la bagatelle de 1 700 milliards de dollars. 1 700 milliards de dollars. Vous aurez compris que je recommande la très instructive lecture du livre de Mylène Sollois et Yves Le Bonniec, « À qui profite la cocaïne ?», paru aux éditions Pluriel. C'était Le Proton se rebiffe. On se retrouve tous les troisièmes lundis du mois et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité.
There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture?
with a garland of freshly cut tears. I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail.
Last night I had the strangest dream I ever dreamt before. I dreamt the world had all agreed to put an end to war. I dreamt I saw a mighty room, and the room was filled with men. And the paper they were signing said they'd never fight again. And when the paper was all signed and a million copies made, they all joined hands and bowed their heads, and grateful prayers were prayed. And the people in the streets below were dancing round and round, and swords and guns and uniforms were scattered on the ground. Hier soir, j'ai eu le plus étrange des rêves que je n'ai jamais eu. J'ai rêvé que le monde était d'accord pour ne plus faire la guerre. je voyais une immense salle, toute remplie de gens, et le papier qu'il signait disait qu'il ne se battrait plus. Et quand le papier fut signé et un million de copies tirées, joignant leurs mains, ils s'embrassèrent et tous ensemble ils prièrent. Et dans les rues, les gens dansaient, dansaient tous en rond, des milliers de fusils et d'uniformes jonchaient le sol. Last night I had the strangest dream I ever dreamt before. I dreamt the world had all agreed to put an end to war.
You better see right through that mother's eye. on se voit beau, on coiffe un nouveau chapeau, on vit une heure. On perd, on gagne, la poussière nous accompagne, on vit, on meurt. On toise, on dupe, on glisse un doigt sous la jupe, on vit une heure. On rit, on boit, on se marie, et puis quoi? On vit, on meurt. C'est un jeu très complexe, mais moi, je décomplexe. On se saoule, on danse, on court sous le ciel immense, on vit une heure. On gueule, on brille, on va seul et on vacille, on vit, on meurt. On siffle, on cause, on kiffe le parfum des roses, on vit une heure. On roule, on braille, on s'écroule dans la bataille, on vit, on meurt. C'est très complexe, mais moi je décomplexe. Décomplexe. On se bouscule, on savoure. Crépuscule. On crie, on croit, on est tous des Christ en croix. On fête ses 20 ans, on les jette dans le printemps. On vit une heure. On casse des pierres, on s'embrasse dans la lumière. On vit une heure. On crâne en criant non pas ça râne. On vit une heure. On trique, on troque, on fabrique notre époque. On vit une heure. C'est un jeu très complexe.
J'aime dans les hebdos sans hétéroclite. Je demande instamment, c'est pas dans l'horoscope. Pas l'horoscope. Dans l'horoscope. Pas l'horoscope.
Bon aspect de Vénus en Verseau, ascendant recto. Échafaudé un programme strict, n'oubliez pas l'audace. La Vierge pense au taureau.
La Vierge pense au taureau.
Charmante énergie du modèle offert à nos manies.
C'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope. Dans l'horoscope, pas l'horoscope.
J'aime dans les cerceaux pleurer sur les amours pipeaux. Les enquêtes pratiques fichent tricot. L'extravagance de nos sans hétéroclite. Je demande instamment,
c'est pas dans l'horoscope, pas l'horoscope. Dans l'horoscope, pas l'horoscope.
Parlez-moi encore de votre enfance, de vos prochaines nouveautés voyantes. Mettez-moi vite dans la confidence. Sur mon silence.
C'est dans l'horoscope, pas l'horoscope. Dans l'horoscope, pas l'horoscope.
On est passé sur ton vieux chat. Je vois qu'une Opel aurait pu faire ça. Ou bien la quatrelle d'une bonne sœur. Y'en a qui partent à la messe de bonheur. Ça fait quand même sentir un peu naze. Et qu'est-ce qu'on va faire des boîtes de whiskas? On peut les donner pour l'Afrique, mais c'est un peu riche pour des rachitiques. On est passé sur ton vieux chat. Tu vas te lever, il faudra te dire ça. Elle avait passé la nuit dans ton pieu. Est-ce qu'on peut rêver, finir beaucoup mieux? Simplement sortir pour pisser, sans savoir trop bien ce qu'on va traverser. Mais c'est quand même pas tellement rigolo à dire à quelqu'un qui part au boulot. Passé sur ton vieux chat. Je vois qu'une Opel qu'aurait pu faire ça. Ou bien la quatrelle d'une bonne sœur. Elle voit pas plus loin qu'un vibromasseur. On est passé sur ton vieux chat. Je vais te faire des bébés pour remplacer ça. On est passé sur ton vieux chat. Je vais te faire des bébés pour remplacer ça.
Radio Libertaire 89.4.
Il y a 20 ans déjà, notre petit village recevait la visite de Dieu en personne. Il avait pris la forme d'un énorme nuage, enveloppant l'église et les cloches qui sonnent. d'une voix paternelle et sur un ton d'orage. Il nous baptisa tous, ce fut un bon présage. Un mouton à trois têtes naquit un peu plus tard devant la foule muette. Par Dieu, c'est un cauchemar. Erreur, c'était le début de la bonne fortune que Saint-Père avait plu par une pleine lune. Fumit hors du troupeau et se tournait les pouces. Grand cadeau du Seigneur, arriva une vache affublée de cent pis qui donnait du lait douce. C'est une poule aux odeurs, les amis, ça s'arrose. De ces cadeaux du ciel, faisons-en quelque chose. Un mouton à trois têtes, ça plaît aux visiteurs. Une vache à cent pis, du bord, avec un grand parking, on fait payer l'entrée. Des produits marketing plus forts que Walt Disney. Continuaient d'arriver les bestioles insolites, canards qui font miaou et tortues qui courent vite, poulets à quatre cuisses et un œil géant. Cyclope, une chèvre volante, vos chiens cochons difformes, brebis dégoulinantes. Entrez, venez nombreux, spectacle hallucinant. Dès l'inauguration, ce fut une réussite, mais de mauvaises langues font courir la rumeur. Selon quoi Dieu ne nous rendit jamais visite. De soi-disant savants auraient fait une erreur. Tout ça n'est que ragot et intoxication. On nous aurait prévenu à la télévision. Un mouton à trois têtes, ça plaît aux visiteurs. Une vache à cent pis, on va se faire du beurre. Avec un grand parking, on fait payer l'entrée. Des produits marketing plus forts que Walt Disney. Un mouton à trois têtes, ça plaît aux visiteurs. On paye un supplément pour voir les enfants gore avec une drôle de trogne et les viscères dehors. Mon Dieu, merci, merci pour la poule aux œufs d'or.
je voudrais manger une grande soupe d'étoiles. Un grand bol d'air de fête, touillé par les tempêtes. Et je tends ma cuillère dans la nuit sidérale, une grande soupe d'étoiles pour brûler en dedans. Une grande soupe d'étoiles pour être une lanterne, un lampion de carnaval pour traverser la nuit. Une grande soupe d'étoiles pour être un ver luisant, juste à l'entrée du camp des réfugiés. De l'amour.
Dans les jardins du Luxembourg, au printemps, se promenaient de jeunes gens. Main dans la main, parmi les arbres, lui parlait des hommes pleins de lointains, d'incertitude et d'espérance, des hommes pleins de lointains, d'incertitude et d'espérance. Des hommes qui deviennent un peu plus loin dans le jardin, une vieille, les yeux chassieux, mendiait son pain, tendait la main. Lui, c'est le poète. De notre vie sont peut-être choses sans secours et qui n'attendent que notre amour. Tout en parlant, il dégagea sa main qui tenait une rose de la mendiante. Il s'approcha devant la vieille, il s'inclina sur ses genoux, il déposa la rose avec respect. La vieille, ses yeux leva, baisa sa main, puis s'en alla. Et ce jour-là, une mendiante, lui, c'est la poète.